On a le temps, quelques minutes pour des questions. Parlez un peu fort parce que je te mets mes oreilles. Allez-y.
C'est quoi l'éveil?
C'est quoi les?
L'éveil.
L'éveil. Ah, bonne question. On est là pour la nuit, là. Hein? Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais... Remarquez, hein? On fait des méditations jusqu'à minuit toutes les semaines. Alors on pourrait... Pourquoi ne pas en faire une, hein? Après tout. Alors, qu'est-ce que l'éveil? Il y a un prêtre, je me souviens, il y a un moine trappiste qui m'avait posé la même question. Qu'est-ce que l'éveil? Dans la voie bouddhiste, disons. Ben, l'éveil, c'est un grand mot. Hein. C'est un grand mot. Bouddho, ça veut dire éveil. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment... C'est une chose que l'on doit expérimenter. Par exemple, quand vous êtes conscient dans l'instant présent, est-ce que vous sentez présente ou pas?
Oui.
Est-ce que vous avez des moments où vous n'êtes pas présente?
Aussi, oui.
Oui, vous avez dit c'est possible?
Oui.
Bon, alors l'éveil, bon, il y a différentes définitions de l'éveil, évidemment, ça correspond à différentes expériences. On dit l'éveil suprême, c'est-à-dire la réalisation complète, la libération complète de ces trois poisons, la colère, la convoitise, les désirs égoïques et l'ignorance. Hein. Puis il y a aussi le moment d'éveil, d'instant en instant, on reste éveillé, c'est-à-dire on est attentif à l'instant présent. L'éveil, on le connaît par contraste. Quand on est distrait, non attentif, on n'est pas dans l'éveil. L'éveil vous demande une énergie où on est vraiment... L'éveil, me disait mon maître, c'est comme... on connaît l'éveil, quand... c'est un peu comme si on marchait sur un glacier et qu'on traverse un glacier et le moindre sommeil, on tombe. Hein? Il disait toujours, c'est comme marcher sur le bord d'un glacier. Vous êtes éveillé à ce moment-là. Si vous vous rappelez, si ça vous est arrivé, quand les choses sont dangereuses, on est très éveillé comme ça. Si j'ai un serpent devant moi, je ne vais pas m'endormir. C'est ça. C'est une façon d'être qui est vraiment attentive, vigilante et consciente. Qualité de conscience. Et on connaît cette qualité d'éveil d'autant plus qu'on se rend compte des moments où nous sommes non éveillés, endormis ou confus ou dans la... Ça vous va? L'éveil, c'est un mot qui est un peu vague finalement, hein? C'est aussi un mot vague, ce sont des mots qui ont une signification profonde, mais qui sont assez banales quelque part. Hein. Je suis éveillé, je suis endormi. Moi, quand je suis dans la torpeur mentale, j'appelle pas ça l'éveil. Par contre, je peux être éveillé à la torpeur mentale. C'est ça la chose extraordinaire dans le bouddhisme, c'est que on n'a pas à se débarrasser d'une chose négative pour être éveillé. On s'éveille en regardant cette chose négative. Et quand on est conscient de cette chose négative, elle n'est plus, on n'est plus prise dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans l'emprise de cette chose-là. S'éveiller à la colère, par exemple, c'est expérimenter la colère, se sentir en colère, mais on n'est pas dans l'emprise de la colère. On la sent, on la reconnaît, on la connaît, on la reconnaît à nouveau, on la connaît à nouveau, etc. Mais notre esprit n'est plus totalement identifié à la colère. On peut la voir, on peut l'objectifier en quelque sorte. On peut objectifier cette émotion de telle manière à ce qu'on n'est pas dans son emprise, on n'est pas sous son emprise. Hein, vous comprenez ça? Ok. Encore des questions?
Vous parlez de compassion. La douleur de l'autre, ça nous fait souffrir aussi.
Ça nous
fait souffrir aussi.
Quand on a la compassion envers l'autre, ça nous fait souffrir.
Oui. Voir souffrir l'autre ou ne pas savoir que faire.
Voilà. Évidemment, quand on voit quelqu'un qui souffre, on a de l'empathie, quelque part. Hein? On a de l'empathie, on peut partager leur souffrance. Hein? Mais il y a aussi une façon de regarder les gens qui souffrent sans en faire des victimes. Hein? Sans en faire des victimes. C'est-à-dire que cette empathie, si elle est, comment dirais-je, si on est, on partage cette souffrance, c'est un fait. Si je vois quelqu'un qui souffre en face de moi, je peux ressentir sa souffrance. Mais ça ne veut pas dire que je vais lâcher mon travail de développement de la compassion. Hein? Ce que l'on peut observer, c'est que quand quelqu'un souffre, on a tendance à le voir comme une victime de la souffrance. Parce que cette personne n'est pas nécessairement souffrante de la manière dont vous souffrez vous-même. Si vous êtes en bonne santé, vous voyez quelqu'un malade, cette personne souffre différemment que vous. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Donc il est très important que dans la souffrance, vous reconnaissiez que la personne pour laquelle vous avez une empathie, elle peut être très différente de la souffrance que vous ressentez. Peut-être la personne qui souffre physiquement est relativement en paix avec elle-même ou avec lui-même. Ou bien une relation à sa souffrance différente de la relation que vous avez par rapport à la souffrance de cette personne. Il est très important de pas de cette victime, cet aspect victime. Quand on voit quelqu'un qui souffre, on a le sentiment « Oh, le pauvre, il ne devrait pas souffrir. Oh, le pauvre, etc. » Alors que cette personne qui souffre, certains, je ne dis pas tout le monde, hein, mais cette personne, elle est peut-être relativement apaisée par rapport à cette souffrance. On ne le sait pas. Mais il est important de ne pas rajouter « Oh, le pauvre, ça devrait être différent. » Hein? Quelqu'un qui a une maladie mortelle ou une maladie grave, hein, il est ou elle est dans une situation intérieure peut-être très différente de la vôtre. Mais en fait, je réponds à une question que je n'ai pas vraiment bien entendue par rapport au... C'est quoi, vous avez peur de développer plus de compassion par rapport aux autres?
Non, j'ai des idées comment aider, mais l'autre, il n'est pas...
Vous avez des idées
pas,
Vous avez des idées comment? Je n'ai pas entendu.
Comment l'aider.
Comment l'aider, oui. Mais
L'autre, il ne peut pas entendre mon aide.
Il ne peut pas s'ouvrir à ses idées.
Voilà.
C'est une situation bien connue, non? L'aide qu'on veut donner aux autres, ça irrite la personne que l'on veut aider, quelquefois. Hein? Vous voulez aider un alcoolique, par exemple, eh bien, il vous détestera parce que vous lui enlevez la bouteille. Hein?
Par exemple.
Non, c'est pas ça. Hein? C'est comme ça. Un drogué, il va voler tous les voisins pour avoir de sa drogue. Hein? Il ne veut pas l'aide, c'est ça le problème. Hein? Donc vous, votre désir, c'est d'aider. La personne qui est dans cette situation ne veut pas céder. Tant que cette personne ne veut pas céder, vous ne pourrez pas l'aider. Il ne faut pas le prendre d'une manière... On dit, ne prenez pas ça d'une manière très personnelle. Ce n'est pas que votre aide est négative. C'est simplement que la personne sur laquelle votre aide se dirige n'est pas ouverte à cette aide-là. Vous ne pouvez rien y faire à un certain niveau. On peut faire quelque chose, mais c'est limité. Tant que la personne elle-même n'a pas vraiment le désir de lâcher ce qui l'a fait souffrir. Ça répond à votre question un peu, oui.
Que faire lorsqu'on a de l'aversion pour une personne? Et une autre question, est-ce que vous-même, vous éprouvez encore parfois de l'aversion pour certaines personnes?
Oui, on arrive. Que faire quand on a l'aversion envers une personne? On l'observe. Très simplement. On observe sa manifestation et plus on est capable d'observer, plus on peut la voir profondément, c'est-à-dire on voit les effets physiques qu'elle a, on voit les pensées qui surgissent, on voit nos réactions, on voit nos contre-réactions, on voit le désir de ne pas être averse, de ne pas être averse, on se rappelle du bouddhisme, on dit « Oh, le Bouddha nous a dit qu'on ne devait pas être blablabla. » Hein? Donc il y a beaucoup de choses qui deviennent claires. Hein? Et ça nous permet justement de lâcher. Quand on a l'aversion, l'aversion c'est une chose très difficile à... c'est pas si facile à gérer. D'autant plus qu'on est vraiment identifié à l'image de nous-mêmes comme étant socialement convenable, quelque part. Hein. Une personne convenable, elle n'a pas des crises de rage à tous les moments, elle n'a pas des... elle pique pas des colères trop souvent, elle... hein, une personne entre guillemets convenable, elle est polie, elle est gentille, elle est charmante, il est charmant, etc. Donc c'est cette image que l'on trimballe de nous-mêmes, elle peut être extrêmement, comment dirais-je, cruelle quelque part, parce que nous ne sommes pas une image. Nous ne sommes pas une image. Une image, c'est une chose qui est transitoire, qui va, qui vient. De temps en temps, on doit être ceci, de temps en temps, on doit être cela. Mais nous ne sommes pas une image permanente. Mais on a quand même ce... la société, de toute façon, vous demande cela. Hein. Vous demande d'être poli et responsable et serviable et tout ça. Donc, on est souvent prisonnier de cette image. Hein. Ce désir de paraître d'une certaine façon. Moi, je me souviens, dans ma vie de nonne, au départ, quand j'étais novice, j'avais l'habitude de... Je ne m'étais pas rendu compte, en fait, jusqu'à ce que je devienne nonne, que je souriais beaucoup. Sans ce sourire, je me voyais très laide. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Je ne m'étais pas rendu compte que ce sourire... était me donner le, comment dirais-je, la confiance que je paraissais bien, que j'étais, j'avais un paraître qui était agréable pour les autres, hein, une surface qui faisait plaisir aux autres. Souriais, je ne savais pas que je souriais beaucoup, jusqu'à ce que je sois au monastère, je me suis rendu compte que je souriais à tout le monde. Encore des bonnes dents, blanches. Donc c'était un passeport pour avoir ce que je voulais, en quelque sorte. Hein. Et je me suis rendu compte de ça, et j'ai décidé, donc, vous voyez un peu ce qui se passe dans la vie monastique, j'ai décidé pendant une semaine, je ne peux pas faire ça dans la société aussi facilement, je n'ai pas sourire du tout, quoi qu'il se passe, je ne sourirai pas. Donc il fallait quand même une volonté assez forte, hein. Pas oublier surtout. Et donc pendant une semaine, je n'ai pas souri du tout. Et ça m'a amusé beaucoup parce que je voyais bien que, ah, je voulais sourire vraiment. Je voulais paraître la personne que j'aimais bien paraître. Et je n'ai pas souri pendant une semaine à tel point que mon maître Achan Somedo a demandé à une autre nonne s'il m'avait fait quelque chose qui m'avait rendu misérable. Donc je ne souriais pas pendant une semaine. L'effet de cette pratique de ne pas sourire pendant une semaine, ça commençait à me faire lâcher un petit peu l'habitude, la souffrance que j'avais quand je ne souriais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'étais plus prise dans ce schéma où je serais heureuse que si je souris, ou je serais bien que si je souris. Je ne savais pas que j'étais bien quand je souriais. Mais c'est au moment où j'en avais ras-le-bol, en quelque sorte. J'en avais assez de... J'ai vu cette dépendance quelque part, vous voyez? Il y avait une espèce de dépendance. Et je n'aimais pas dépendre de quoi que ce soit. Donc je me suis décidée à lâcher cette dépendance. Hein? Et ça a marché. Quelque part, je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée de sourire pour me faire plaisir ou plaisir aux autres. En fait, ils étaient soulagés sans doute. Même à la limite. Et la version... à ce moment-là, donc, en arrêtant de sourire, je suis rentrée en contact avec mon aversion. D'accord? On lâche ce sourire et on se rend compte que derrière tout ça, il y a de grosses colères et d'aversion. Là, ça m'a appris à voir, je ne veux pas schématiser les gens d'une manière trop rigide, mais je suis arrivée à un point où quand je vois des personnages, des gens qui sont extrêmement charmants, sourient tout le temps. Je sais, dans mon expérience, j'ai rencontré pas mal de gens, il y a toujours une masse de colère derrière. Les gens qui sont un peu mornes, misérables, etc., c'est... ils ont peut-être moins de colère que les gens qui sont très, très, très charmants tout le temps. Ben, c'est une façon dont j'ai expérimenté, moi, dans ma vie. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Et s'il n'y a plus de questions, ben, on peut terminer la soirée. Et avant de terminer la soirée complètement, je vous rappelle d'utiliser votre vigilance intérieure. Mais vigilance, c'est aussi un état de détente, rappelez-vous. Détente intérieure, amenez l'éveil dans votre posture de sommeil. Amenez l'éveil dans la façon dont vous rentrez dans le sommeil. Faites une petite méditation avant de vous endormir, ça va vous aider à avoir un sommeil plus calme. Et même, programmer, vous pouvez programmer votre mental à s'éveiller, à se réveiller à un certain moment. Alors, si vous réveillez à 6 heures, vous dites, avant de vous endormir, vous dites, je me réveillerai à 6 heures. Faites-en l'expérience. J'en ai fait l'expérience avec mon maître qui nous en a parlé, et c'est vrai. Le mental est une bête assez docile, vous savez, c'est docile. C'est pas si méchant que ça, quand même. L'esprit est un esprit qui est beaucoup plus facile à vivre que vous imaginez. Quand on l'aide et qu'on apprend à l'aimer, et à le comprendre, et à le connaître, etc., votre mental est beaucoup plus agile, est beaucoup plus docile, est beaucoup plus apte à répondre aux situations de la vie que vous imaginez. Donc, quand vous endormez, avant de vous endormir, vous rappelez 6 heures du matin, je me réveille. 6 heures du matin. Ah, si vous vous levez à 5 heures, 5 heures du matin. 5 heures du matin, 4 moins 5. Hein, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous leviez. Et quand vous vous levez le matin, essayez de vous, si vous êtes encore un peu jeune quand même, hein, assez jeune pour faire ça, votre esprit est clair, hein, levez-vous tout de suite, et vous pouvez commencer à faire un petit peu des exercices légers, ou de respiration, quelque chose qui vous réveille un petit peu tout le corps, et vous mettez dans ce refuge de l'attention tout de suite. C'est vraiment un exercice. Hein. C'est pas seulement de la poésie. Quand je me sens bien, je sens l'éveil. Quand je suis misérable, je mets le duvet par-dessus et je dors. Mais on fait tout ça, hein, vous inquiétez pas. Et ceux qui connaissent déjà le bouddhisme un peu, vous pouvez prendre les refuges avant de dormir. Qu'est-ce qu'ils connaissent, les refuges, les trois refuges?
Le Bouddha, le
Dhamma, le Sangha. Vous prenez les trois refuges. Refuge dans l'éveil, refuge dans la vérité, refuge dans la compagnie d'être éveillé. Okay.